Le Seigneur vous bénisse.
Vous deux. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Nous étudions cette dernière rencontre de Jésus avec ses disciples avant de mourir, cette soirée qui se passe pour la plupart dans la chambre haute, mais qui va se déplacer maintenant. Jésus avait dit à la fin du chapitre 14, « Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé, levez-vous, partons d'ici. » Partons d'ici pour aller où? Levons-nous, j'obéis à mon Père, par amour pour lui, je vais à la croix. Donc les disciples se lèvent et ils vont vers le jardin de Gethsémané qu'ils connaissent très bien. Pourquoi? Parce que Jésus les a souvent amenés là et c'est pour lui un lieu de prière et de communion fraternelle. Et donc, nous lisons dans le chapitre 15 et le verset 1. Soit en cours de route, en le parlant, soit une fois arrivé, Jésus leur dit ces paroles. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ce soir-là, jusqu'ici, ça a été un dialogue. Jésus parle, Thomas parle, Judas, non pas l'Iscariote, parle, les uns et les autres posent des questions et Jésus répond. À partir de maintenant et jusqu'au à peu près le verset 7 ou 10, j'oublie du chapitre 16, ça change complètement. Ce n'est plus un échange, c'est un enseignement de la part de Jésus. Le temps presse et Jésus a encore quelque chose de très important à dire. Et nous abordons le début dans le passage que nous avons lu. Dans ce passage, Jésus nous explique la relation entre les croyants et lui en tant que cep. Dans les versets 12 à 17, Jésus va expliquer la relation entre les croyants eux-mêmes, les uns aux autres. Il va parler beaucoup de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et dans la fin du passage, Jésus va expliquer la relation des croyants avec le monde et la haine du monde envers les croyants dont ils doivent être avertis. Le ton est plein d'amour. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais le ton est très impératif. Vous avez vu? Moi, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il sèche, il brûle, demeurez en moi. Plein d'amour, quelle invitation, quelle grâce de pouvoir être un sarment dans le cep qui est le Fils de Dieu. Mais quel impératif. Chacun est mis à sa place. Mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Les choses deviennent claires. Nous voulons donc ce matin essayer de comprendre cet enseignement qui est vraiment le cœur au cœur du cœur de la vie chrétienne. Demeurer en Christ. C'est la manière seule d'avoir une vie féconde pour Dieu le Père. Et donc la première chose que nous devons remarquer, c'est, premier point, la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, selon Jésus ici, c'est devenir quelque chose pour le Père. Au Père, je deviens, vous devenez quelque chose. Au Père, pour son plaisir. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et le sarment qui ne porte pas du fruit, il est tout simplement retranché. Il est brûlé. Pourquoi? Nous sommes en pays de vignes. Et le vigneron plante des vignes. Et pourquoi est-ce qu'il les plante? Ces vignes existent pour quel but? Pour eux-mêmes? Le vigne existe pour donner un fruit au vigneron. Si il ne donne pas ce fruit qui plaît, que le vigneron cherche quelque chose de lui, il n'a aucune raison d'être. Et nous existons, notre existence elle-même est pour que nous devenions quelque chose pour le Dieu de l'univers. Dieu est tellement grand, chers amis, qu'il ne peut rien créer qui ne soit complètement pour lui. Ce serait impossible. Ce serait horrible pour nous s'il pouvait nous créer pour un but moins grand que de lui appartenir, que d'être quelque chose pour lui. Tout ce qui est plus petit pour cela est infiniment plus petit que cela. Donc, gloire à Dieu qui doit en être ainsi. Nous voyons donc au début de ce passage un grand dessein pour nous, un grand privilège. Je sais pas comment est-ce que vous le vivez. Est-ce que vous pensez que c'est un privilège pour moi d'exister, que mon existence même, c'est que je devienne quelque chose qui donne plaisir au Dieu de l'univers. Deuxième point. Nous voulons demander, mais Si nous devons porter du fruit, parce que tout ce passage c'est au sujet de porter du fruit, il le dit constamment, n'est-ce pas? La fécondité que vous devez avoir dans votre vie, c'est quel fruit? C'est quoi ce fruit que nous devons porter? Et les gens pensent à deux choses différentes. Et certains disent le fruit, c'est le fruit d'amener d'autres gens à Christ. Et certains, d'autres disent c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. En fait, ce débat n'a pas lieu d'être parce que sans aucun doute, l'Écriture elle-même nous pointe dans les deux directions. Nous allons juste regarder pour le fruit, de porter le fruit d'amener d'autres à Jésus, nous pouvons regarder dans le passage lui-même. Regardez le verset 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que, quoi? Vous alliez et que vous portiez du fruit. Quelle sorte de fruit est-ce qu'on peut porter seulement si on va, en allant? Si on va vers quelqu'un d'autre, en tant qu'envoyé, et on lui apporte l'évangile, il y a du fruit. Mais ce fruit, c'est quelqu'un de nouveau qui va devenir quelque chose à Dieu, pour Dieu. Mais devenir quoi pour Dieu? Et ça, c'est la place du fruit de l'esprit. Dieu veut que nous portions d'abord nous-mêmes le fruit d'un caractère qui est son image à lui, qui lui plaît. Et quand on se multiplie par l'évangélisation, on multiplie des gens qui ont justement ce caractère. Regardez avec moi dans Isaïe chapitre 5 et les versets 1 à 7. Dieu nous définit quel fruit il cherche de sa vigne. Dans l'Ancien Testament, Israël était la vigne de l'Éternel. Vous le saviez? Ça vous dit quelque chose? Vous vous rappelez que souvent il appelle Israël la vigne il a planté une vigne qui devait lui apporter un fruit. Et nous lisons donc dans ce chapitre 5 et verset 1. Or, donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un côté fertile. Il la défonça, ôta la pierre et il y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or, donc, maintenant, habitants de Jérusalem et l'homme de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Où y avait-il encore à faire? Pardon. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or, donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Regardez ce dernier verset. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré, regardez ce qu'il avait espéré, le fruit. C'est pas les raisons. Il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture. La justice. Et voici le cri du vice. Donc Dieu espère quelque chose de vous qui peut qualifier comme droiture. Et ça comprend tout ce fruit de l'esprit. Et vous avez vu dans le verset 2 que quelqu'un qui ne porte pas ce fruit de l'esprit de l'obéissance d'un cœur, la crainte de Dieu, ce cœur qui donne la priorité au Seigneur, qui cherche d'abord le royaume de Dieu, Celui qui, pour qui Dieu est un accessoire, certes important, mais accessoire, c'est une attitude de forfaiture. N'est-ce pas? C'est désobéir au premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et donc, quand quelqu'un ne porte pas ce fruit du caractère chrétien, la Bible dit tout simplement qu'il n'est pas un vrai croyant. Maintenant, ce verset embête beaucoup de gens et peut-être un des versets plus loin encore plus. Mais je vous relis le verset 2. Tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un vrai chrétien qui soit après perdu? En fait, il faut savoir que en grec, le mot sarment dans ce passage n'est pas le mot typique qui signifie le sarment, la branche de la vigne. En fait, Jésus a utilisé le mot cléma. Et le mot cléma signifie greffon. Il est en train de parler des branches qui ont été greffées. Et il est en train de dire qu'il y a des greffons qui ne prennent pas et des greffons qui prennent. Il y a des gens qui s'attachent à Jésus par une foi légère et éphémère et pas vraiment salvatrice. Et oui, ils ne portent jamais du fruit parce qu'ils n'ont jamais été vraiment enracinés dans la vraie manière, dans la bonne manière, de manière demeurée. Et ça se voit après. Et donc cela explique ce phénomène que nous voyons, dans toute Église. Dans toute Église, on voit malheureusement qu'il y a des serments en Christ, c'est-à-dire en Christ dans le fait qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont été joints à l'Église de Christ, au corps de Christ, visiblement. Mais en réalité, invisiblement, ce que nous ne voyons pas, c'est qu'ils ne font pas vraiment partie des vrais croyants. Maintenant, nous posons la question, nous avons vu quel est le fruit que nous devons porter, mais d'où vient cette capacité de porter le fruit d'un caractère chrétien ou même le fruit d'amener d'autres à la conversion? Et Jésus nous dit, à partir du verset 3, « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans le cèpe, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cèpe, vous les serments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. » Donc une vie chrétienne conséquente, une vie d'amour véritable et suprême pour Dieu et sincère pour les hommes, ça ne peut jamais être le résultat de vos efforts, tout simplement. Vos disciplines spirituelles, tout simplement. Votre volonté. Ça ne jaillit pas de l'esprit humain, quels que soient les efforts que vous y mettez. Jésus est en train de nous dire qu'il est, lui, la seule source de droiture humaine qui ait jamais pu être. Il est l'homme droit lui-même. Et seulement lorsque nous tirons de lui la sève de son esprit, qu'il communique à nous par son esprit ce qu'il est lui-même, pour qu'il y ait, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il y a quelque chose qui m'arrive, qui n'est pas moi. Vous comprenez? C'est pourquoi il parle d'une demeure mutuelle. Si vous demeurez en moi, et moi en vous. Christ est en vous et fait quelque chose et produit des pensées, des désirs, des actions, des volontés que vous ne pourrez jamais produire. Et de plus en plus, il prend de la place lorsque vous apprenez à demeurer en lui et il produit de plus en plus de fruits en vous. Mais c'est lui. Et remarquez qu'il n'y a aucun commandement dans ce passage qui vous dit portez du fruit. Il y a juste un commandement qui dit demeurez en moi. Notre attention n'est pas tournée vers les résultats que nous devons produire. La vie chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui dit je dois être comme ça et comme ça et comme ça. Mon attention première n'est pas là. Mon attention est vers lui. Il est le vrai sceptre, Jésus-Christ. Et je dois, moi, m'attacher à lui, le contempler, tirer de lui, dépendre de lui, être de plus en plus en communion, en relation vivante et réelle avec le Fils de Dieu. Ça, c'est ma tâche. Le fruit est juste le résultat de cela. Et je dis que nous, les chrétiens, souvent, nous trompons parce que nous commençons comme ça. Au début de la vie chrétienne, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes épatés par Jésus-Christ. Nous sommes en train de lire sur lui, de penser à lui, de le louer, de nous attacher à lui, de dépendre de lui. Et puis, à un moment donné, nous détournons le regard et nous nous concentrons sur notre vie chrétienne, ce qu'on doit être. N'est-ce pas? Est-ce que je suis aimant? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que j'ai de la paix? Mais on peut bien faire attention à ces choses-là, mais pas de manière à nous écarter du vrai cep. Comme si moi je vais devenir un cep moi-même juste en me focalisant sur les fruits. Impossible. Vous voulez porter du fruit? Ne focalisez pas sur les fruits. Focaliser sur le vrai cep. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans une relation qui s'approfondit avec moi de plus en plus. Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine, avait une prière qu'on a trouvée à côté de son lit quand il est mort. On a appris que c'était apparemment une prière qui priait tous les jours. Je le connais par cœur en anglais, mais je vais le dire en anglais parce que je ne pourrais pas le dire en français comme ça et me rappeler. Mais voilà ce qu'il priait tous les jours. Et je vais traduire. Lord Jesus, be thou unto me. Seigneur Jésus, sois-toi pour moi. A living, bright reality. Une réalité brillante et vivante. More present to faith's vision keen, plus présente à la vue de ma foi, than any outward object seen, que tout objet extérieur que je vois. More near, more infinitely nigh, plus proche, plus intimement à côté de moi et en moi. Than even the closest earthly tie. Que même le lien terrestre le plus intime. Donc chaque jour, Seigneur Jésus, sois à moi une réalité brillante et vivante, plus visible à moi que les objets que je vois, plus visible à ma foi, plus proche, plus intimement là que même les objets autour de moi. C'est vraiment formidable. Pour Hudson Taylor, c'était Jésus-Christ et la proximité à Jésus-Christ qu'il devait à tout prix avoir. Et il avait raison. Je vois que je ne vais pas finir mon message ce matin, donc ne vous en faites pas. Je vais juste vous parler un tout petit peu de comment nous devons demeurer en lui. 11 fois dans ces 11 versets, Jésus dit « demeurez en moi » ou « demeurez dans mon amour ». Mais la question c'est comment est-ce que nous devons le faire? Et la Bible nous donne quelques indications. La première chose, c'est que nous devons demeurer en Christ en continuant, parce que vous vous rappelez, le mot demeurer veut dire rester. D'accord? L'attachement que nous avons doit perdurer. Mais ça ne veut pas dire cela simplement. Le mot demeurer aussi signifie y faire son chez-soi, n'est-ce pas? Et ça donne non seulement l'idée de rester fidèle à Jésus, je n'ai pas quitté ma foi, mais l'idée de s'enraciner comme le greffon de plus en plus, de dépendre plus, d'être plus proche, plus attaché à Jésus-Christ en allant plus loin dans la vie. Et donc, je disais que la première chose que la Bible nous dit, c'est demeurer en Christ, c'est continuer en approfondissement ta croyance en lui, ta croyance. Alors, on commence avec ce qui est un peu élémentaire. Mais je lis en 1 Jean chapitre 2, le verset 24, qui nous dit ceci, ne tournez pas, pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. C'est clair. Comment demeurer en Christ? La première chose, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer et s'enraciner en vous. Ne vous écartez pas de l'Évangile et des premières choses. Deuxièmement, demeurer en Christ, c'est continuer en vous approfondissant dans votre contemplation de lui, dans votre croyance en lui et dans votre contemplation de lui. Vous ne pouvez pas, comme Hudson Taylor, avoir une relation de plus en plus proche parce que, rappelez-vous que Jésus-Christ est une personne. Et comme avec toute personne, on peut avoir une relation plus ou moins intime. Avec toute personne, nous avons des niveaux d'intimité, n'est-ce pas? Et on peut grandir dans cette intimité si certaines conditions sont remplies. On doit s'ouvrir, on doit être la sorte de personne à qui l'autre s'ouvrira, n'est-ce pas? On doit chercher l'intimité. On doit être proche de la personne pour le connaître. On doit avoir beaucoup de contacts. Et si toutes ces sortes de choses arrivent, vous allez, dans n'importe quelle relation, devenir de plus en plus intime, soudé dans la relation. Et une des choses qui vous aide à demeurer en Christ dans une relation plus intime, c'est de le contempler. D'accord? La Bible nous en parle en 2 Corinthiens 3, 18, en nous disant que nous tous, dans le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Bien sûr, vous ne pouvez pas demeurer en Jésus-Christ sans penser à lui. Et une des grandes clés, c'est où sont vos pensées? Demeurer en Christ a une facette de croyance et une facette intellectuelle. Ou c'est plus qu'intellectuel, c'est le regard fixe de la foi. La foi est une sorte d'œil. Et la foi regarde quelque chose. La foi contemple. La foi pense à l'invisible. La foi regarde la promesse et la considère comme vraie. La foi regarde Dieu et la foi regarde et contemple Jésus-Christ dans sa vie parfaite, dans ses miracles, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son intercession au ciel, dans ses souffrances et dans ses, dans tout ce qu'il est. Et au fil du temps, vous trouvez que en faisant cela, qu'il y a des choses qui vous deviennent précieuses en Jésus-Christ que vous aviez glissées dessus pendant des années. Pour moi, les miracles du Seigneur sont maintenant comme une douceur, vraiment. Quand je regarde les miracles du Seigneur, il me semble que tout son caractère, que toute sa sagesse et sa puissance se révèle dans les miracles de Christ. Mais ça, pour nous, ces genres d'événements, c'est lorsque nous restons avec lui, lorsque nous contemplons de manière cordiale et lente et reposée le Christ, son visage dans les évangiles. Si vous voulez demeurer en lui, regardez le verset 7. Pardon, je reviens au passage. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous voulez demeurer en Christ, il faut que ces paroles demeurent et que par les paroles de l'Évangile, que vous contemplez son enseignement et sa personne et ses actes. Voilà, c'est très important. Ensuite, demeurer en Christ, c'est continuer en vous approfondissant dans votre dépendance de lui. Votre croyance en lui, votre contemplation de lui, votre dépendance de lui. Vous savez que quand on devient chrétien au début, on pense qu'on vit par la foi. On dépend du Seigneur. Et puis on voit au fil des années que on devient beaucoup plus radicalement pauvre en esprit. On a une beaucoup plus grande méfiance de nous-mêmes. Parfois, j'ai l'impression que je ne veux pas bouger du lit si je ne crie pas au Seigneur, ô Seigneur, que ce ne soit pas moi aujourd'hui, mais toi qui vis en moi. Cette dépendance devient plus radicale, plus constante, avec la méfiance de soi, avec notre connaissance de notre propre péché. Et plus je dépends comme ça du Seigneur, plus je vais être comme le sarment qui tire de sa sève, qui a besoin de lui. Chers amis, vous n'allez jamais expérimenter une quelconque vertu ou bénédiction spirituelle, sauf dans la mesure où vous avez vraiment besoin de cela. Et notre problème, c'est que nous n'avons pas assez besoin de beaucoup de choses. Dans le Seigneur dit, vous avez besoin de ça. N'est-ce pas? Donc, pour demeurer en Christ, il faut grandir dans votre dépendance. Ensuite, pour demeurer en Christ, il faut grandir, demeurer, rester et vous approfondir dans votre confiance. La confiance est l'autre face de la dépendance. Je sais que j'ai besoin de toi, mais j'ai aussi confiance que tu vas faire en moi ce que j'ai besoin que tu fasses. Et il y a des gens qui grandissent beaucoup dans la dépendance, mais pas dans la confiance à un moment donné. Ils crient beaucoup à Seigneur, mais pas avec beaucoup de confiance et de foi. Et ces prières-là, sont pas très efficaces. Crier à Dieu dans l'incrédulité n'arrange rien, n'est-ce pas? Mais nous voyons des cris comme ça dans la Bible. Des gens qui crient à l'Éternel, mais sans confiance. Mais pour demeurer en Christ, nous devons, au fur et à mesure, en le contemplant, savoir que donc le Seigneur vit en nous. En lui sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse, et que c'est la volonté souveraine du Père que Christ vit en nous et qui prennent de plus en plus de face. C'est un plan de Dieu que rien, ni au ciel, ni au l'enfer, ne peut arrêter. Et on devient de plus en plus confiant de cela. Que Christ nous dit tous les jours, demeure en moi et moi en vous. Et nous avons confiance et notre cœur se repose Et on sait que Christ va faire ce à quoi nous ne nous attendons pas. Il va faire le ridiculement gracieux. Il va faire ce qui est vraiment au-delà de tout ce que nous pourrions mériter. Ensuite, demeurer en Christ, c'est continuer en vous approfondissant dans votre amour obéissant ou votre obéissance aimante vis-à-vis de lui. Regardez les versets 9 à 10. Jésus doit abandonner la métaphore du cep et des serments parce que cette métaphore est limitée. Et maintenant, il va juste dire quelque chose de littéral et concret. Il dit ceci. Mais il continue avec le langage de demeurer pour nous montrer qu'il n'a pas changé de sujet. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et donc, quand nous obéissons à Dieu, quand nous disons non à notre volonté, et que nous disons oui à sa volonté, mais bien sûr, ça nous enracine plus dans notre relation avec lui. Ça fait que lui-même, il s'enracine plus dans qui nous sommes, notre volonté, nos penchants. Il prend de plus en plus de place quand nous cédons et quand nous cessons de faire certaines choses et que nous obéissons. L'obéissance ouvre la voie à demeurer et à être plus fécond par rapport au Seigneur. Je dirais juste un mot en terminant. Lisez avec moi en Jean chapitre 6 et le verset 56. On va terminer avec cela. Chapitre 6 et verset 56. Jésus, en parlant de lui-même comme le pain du ciel, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure, le voilà, demeure en moi et moi en lui. » C'est étonnant. Nous sommes en train de lui demander comment est-ce que nous demeurons en Christ. Et Jésus dit « Celui qui ne s'éloigne pas de ma croix, mais qui dépend de moi, non pas, écoutez bien, non pas simplement en celui qui aide et qui sanctifie, mais premièrement le chrétien qui dépend de moi principalement comme celui qui lave et pardonne. Celui-là qui reste dans la place du pécheur et qui réalise que toute autre bénédiction, si tu veux que Dieu te change, il le fera en te donnant son esprit. Mais son esprit, ça, c'est un souffle du Seigneur qui vient d'un Seigneur crucifié. Les bénédictions dont tu as besoin pour être plus fort, pour témoigner, il te les donne dans les mains trouées par les clous. Rien, vous ne pouvez avoir aucune bénédiction qui n'est pas dans un sens juste une manifestation de cette bénédiction principale qui est le lavement par son sang et le pardon. Tout vient de là. Et je vous avertis que nous pouvons penser que, oui, il y a le pardon, et puis une fois qu'on est pardonné, on tourne le dos à Jésus en tant que sauveur, l'agneau, qui me lave par son sang, et je dépends de Jésus le cep qui m'aide à être saint par sa puissance. Pas du tout. Ça n'existe pas. Votre seule bénédiction, c'est auprès d'un Seigneur crucifié, celui qui boit mon sang et qui mange mon corps. Ça, c'est celui qui va tirer tous les autres bienfaits de moi. Je me lève. Je dis au Seigneur, avant de bouger, Comme des brebis, nous sommes tous égarés. Chacun, Seigneur, et moi le premier, nous avons suivi notre propre chemin. Et toi, tu as fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je commence là. Je ne veux pas bouger de là. Je suis toujours le pécheur qui a besoin chaque seconde de ma vie de vivre du sang versé du Christ et de dépendre de Christ en tant que sauveur des pécheurs. Ça, c'est ma première fois en Christ. Et tant que je ne bouge pas de là, tout le reste peut arriver. Mais est-ce que ça ne rime à quelque chose en vous, l'idée de penser qu'il y a la première phase, le pardon, et puis après ça, on dépend de Jésus comme puissance pour nous sanctifier? C'est un grand piège. Nous demeurons en lui comme l'agneau de Dieu, comme le Sauveur. Par cette foi, non seulement dans sa puissance, mais aussi dans ses souffrances. Nous allons chanter. Dans le recueil, le numéro 222, 222, ô mon Sauveur.